Radio Okapi.
Et Babel Mpongo pour les journaux.
Okapi.
Bonjour, le rapport 2011 d'Amnesty International sur la RDC est là. L'ONG accuse des militaires et des policiers congolais ainsi que des groupes armés dans l'Est de plusieurs violations de droits de l'homme et autres exactions. La MONUSCO installe 3 bases stratégiques autour de la cité de Bounagana au Nord Kivu. C'est pour empêcher que cette cité ne tombe entre les mains des rebelles du M23. Au Kassai-Oriental, plus de 2900 malades sous antirétroviraux ont été validés fin mars. Ces statistiques sont du Programme national de lutte contre le VIH-SIDA. Situation des droits de l'homme en RDC. Amnesty International vient de publier son rapport annuel sur les violations de droits de l'homme en République démocratique du Congo pour 2011. Encore une fois, des éléments des FARDC, de la police nationale et de groupes armés opérant dans l'est du pays sont accusés par l'ONG d'homicide, de violence contre les femmes et les filles, de torture et autres mauvais traitements. Et ils le font en toute impunité. Jeff Ngoy décortique ce rapport.
Il n'y a pas que des épines. Le rapport contient aussi quelques roses. Le 4 octobre, les Mai Mai à Kutumba auraient tendu une embuscade à un véhicule appartenant à Ebenezer Ministry International, une ONG congolaise tuant 7 personnes à Kalongwe dans le territoire de Fizi au sud Kivu, affirme Amnesty International. Elle dénonce que durant la période pré- et post-électorale, les forces de sécurité, y compris la garde républicaine, ont procédé à des exécutions illégales et à plusieurs dizaines d'arrestations arbitraires. L'ONG britannique parle de limites de progrès accomplis dans la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de droit international. D'après elle, 9 militaires congolais, dont un lieutenant-colonel, ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité, notamment pour viol commis le 1er janvier à Fizi. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement en février. Pour Amnesty, il s'agit de l'un des rares cas où les auteurs des violations ont été rapidement traduits en justice. En revanche, indique le rapport, les enquêtes piétinées dans d'autres affaires de viol en masse imputables aux éléments de FARDC ou groupes armés.
Procès Germain Katanga et Mathieu Ngoujolo à la Cour pénale internationale. La CIDH, Action contre l'impunité pour les droits humains, une ONG locale de droits de l'homme, se dit satisfaite de la rapidité avec laquelle ce dossier est traité à la CPI. Elle demande toutefois au gouvernement congolais de collaborer aussi pour extrader Bosco Ntaganda et pour fournir les informations concernant Sylvestre Moudakmoura, un des leaders du FDLR recherché par la CPI. La CIDH l'a dit dans un communiqué de presse rendu public hier à Lubumbashi. Emmanuel Umpula, son directeur exécutif.
Nous avons analysé la célérité avec laquelle le procès a été conduit et donc ça nous rassure que la CPI, au vu de cette avancée, peut être en mesure de poursuivre plusieurs auteurs de crimes graves commis en RDC. En tant qu'organisation des droits de l'homme, nous avons estimé que c'est un message lancé par la Cour pénale internationale aux auteurs de crimes graves commis en RDC. Bien sûr, le gouvernement congolais a déjà beaucoup collaboré, mais on pense que le gouvernement doit faire l'avantage. Notamment, vous avez le cas de Bosco Ntaganda, qui est encore en cavale. Donc nous pensons que le gouvernement congolais peut davantage collaborer pour qu'on arrive à mettre la main sur Bosco Ntaganda. Vous savez que le procureur de la Cour pénale internationale a adressé une demande auprès de la chambre préliminaire. En ce qui concerne Sylvestre, on présume que le gouvernement a des informations parce que, vous savez, l'FDLR c'est au Congo, à l'Est, donc on estime que le gouvernement peut avoir suffisamment d'éléments à communiquer auprès du bureau du procureur.
Le directeur exécutif de la CIDH au micro de Jean Gandou depuis Lubumbashi. Au Kassai-Occidental, le préfet de l'Institut pédagogique de Djokopunda, à 65 km de Luebo, a été torturé devant 6 élèves et jeté nu au cachot de la police. Selon l'avocat conseil du diocèse de Luebo, cet incident a eu lieu mardi passé. Maître Innocent Balot est précise que cela est arrivé alors qu'Augustin Mafuta, le préfet, s'interposait pour mettre fin à une confusion créée par les élèves de la 6e année et un groupe de policiers. Ce policier se serait introduit dans la salle pour arrêter un élève finaliste, geste mal digéré par les autres élèves. Explication de maître Balo Wachibwabwa, Jean par André Kambala.
Au juste, il y a eu des élèves qui s'étaient querellés à la maison et se sont injuriés. Mais le papa de la victime des injures, l'élève de la 4e, est allé saisir le magistrat qui fait la permanence du parquet de grande instance de Luebo à Djokopunda. Ce dernier a envoyé un groupe de policiers arriver à l'institut. Au moment où le professeur posait son examen de civisme, au lieu de contacter le préfet, ils sont passés directement jusque dans la salle. Directement, ils ont saisi le garçon. Il y a eu des désordres. Le préfet sortit de son bureau pour venir séparer les policiers avec les élèves. Ce qui est curieux et grave, les policiers vont tomber encore sur le préfet. Ils lui ont donné des coups et l'ont amené en désordre les habits, déchiré les souliers portés du Supari jusqu'à la cheminée au cachot.
Aux dernières nouvelles, le conseil de sécurité de Joko Punda s'est réuni hier soir pour tenter de décanter la situation. Vous aurez des précisions dans nos autres points d'actualité. Au Nord Kivu, les casques bleus de la MONUSCO viennent d'établir 3 bases stratégiques autour de la cité de Bunagana. C'est pour s'assurer que cette cité ne tombe jamais entre les mains de rebelles de M23 fidèles à Bosco Ntaganda. L'assurance a été donnée hier à Bunagana par le général Chandar Prakash, commandant des forces de la MONUSCO. Pour le responsable de la mission onusienne, ce déploiement vient en appui aux efforts des FRDC de sécuriser la population de cette cité contre toute invasion de ces rebelles. Bernadette Nyangui.
Le général Chandar Prakash a donné cette assurance lors d'une tournée hier à Bunagana, accompagné du chef des bureaux de la MONUSCO Nord Kivu et du commandant de la brigade Nord Kivu de la MONUSCO. Pour le chef des bureaux, le déploiement des casques bleus à Bunagana n'est pas dissuasif.
Nous avons voulu nous assurer que les mutins n'arrivent pas dans les environs de Bunagana et que Bunagana ne soit pas bien protégé. On n'est pas là pour faire simplement acte de présence, mais pour être utile.
Cette présence est renforcée des casques bleus et entre autres mobiles qui rassurent la population civile de Bunagana, dont près de 70% de ceux qui se réfugiaient déjà en Ouganda sont rentrés dans la cité les 4 derniers jours. Paulin Bunani, président de la société civile du groupe Majomba.
Avec le fait qu'on comprend que les mutins ne pourront pas arriver ici, surtout que la MONUSCO aussi chaque fois insiste en disant qu'il faut sérieusement protéger la cité.
Signalons que depuis dimanche, pratiquement, les affrontements sont suspendus dans la région de Bunagana. En ce moment, les éléments des M23 de Makinga Sultani gardent leur position dans les collines de Runyoni et Chanzu, une dizaine de kilomètres au sud-est de Bunagana, et les FARDC sont déployés à moins de 3 kilomètres au nord de ces collines, où selon certaines sources FARDC, les militaires restent en alerte. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Au Kasaï-Oriental, plus de 2900 malades sous antirétroviraux ont été validés fin mars dernier. Ils ont été identifiés dans les 89 structures incluses dans 21 zones de santé appuyées par le Fonds mondial de cette province. Ces statistiques ont été présentées hier au ministre provincial de la Santé par la délégation du PNMLS, le Programme national de lutte contre le VIH-SIDA. Cette délégation a bouclé hier sa mission au Kasaï-Oriental après plus d'un mois de collecte de données concernant la lutte contre le SIDA dans cette province. Quelques recommandations ont été formulées aux prestataires pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Dr Patricia Nimbo du PNMLS Kinshasa nous les donne au micro des Stern de la Fina.
Cette nouvelle cartographie va nous aider à la planification de nos activités futures. On nous a rapporté 3304 malades sous ARV. Nous avons validé au 31 mars plus ou moins 2900 malades. Par rapport aux faiblesses, la grande faiblesse c'est la démotivation du prestataire qui a entraîné une démotivation du personnel qui a ipso facto aussi entraîné beaucoup de faiblesses dans tout ce qu'il y avait comme activité, c'est-à-dire les rapportages, la prise en charge. Le grand problème c'était les outils qui étaient mal remplis ou non remplis. C'était important qu'on arrive sur terrain depuis qu'on a intégré les activités parce qu'on continue parfois à rapporter de malades qui étaient déjà décédés, des malades qui étaient déjà transférés dans d'autres milieux ou qui avaient abandonné. On a pu faire ce toilettage. C'est qu'on pourrait maintenant faire des planifications réelles et qu'on pourrait arriver à éviter rupture de stock par-ci et les surstockages en entrant par-là. Que ça peut vraiment redynamiser notre lutte.
Parlons à présent de l'enseignement primaire et secondaire avec le réaménagement du calendrier scolaire 2011-2012 dans la province éducationnelle de l'EPSP Équateur 2. Les examens de fin d'année initialement prévus le 24 mai sont repoussés d'une semaine, c'est-à-dire que ces examens vont débuter à partir du 4 juin prochain et non plus aujourd'hui. C'est la décision prise mardi dernier à Guémena par le comité provincial éducationnel. Selon le directeur provincial intérimaire de l'EPSP Équateur 2, Honoré Matundi, ce réaménagement a pour but de mieux préparer les élèves finalistes aux examens d'État. Il n'implique pas de frais supplémentaires de la part des parents. Honoré Matondi explique les motivations de ce réaménagement au téléphone de Paul-Richard Malingela.
Et certains cours, jusqu'à présent, les professeurs sont presque humiliés du programme. C'est ainsi que, quand les inspecteurs sont descendus sur le terrain, ils ont fait ce constat. Et à partir de là, nous étions obligés donc de réunir tous les opérateurs pédagogiques de l'Équateur 2 pour examiner les cas, afin que les examens puissent être décalés. Selon les calendriers, les examens devraient commencer du 28 de ce mois ici jusqu'au 4. Mais nous avons jugé bon de décaler ces examens du 4 au 12 pour permettre à ce que, pendant ce temps, les professeurs un peu en retard puissent se rattraper avec le cours. Et je ne pense pas qu'il sera question que les enfants puissent payer autre chose parce qu'on n'a pas bougé le calendrier reste comme tel. Donc ça va aller jusque le 2 juillet, le jour de la proclamation. Et nous avons largué nos agents pour que les enseignants suivent scrupuleusement l'ordre qui a été pris pour cet effet.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.